Cédric Jubilard avait une très grande difficulté au point de vue affectif et matériel à accepter cette séparation, la vivait très mal, tenter même de reconquérir son épouse, mais d'une manière particulièrement intrusive et agressive, puisqu'il pouvait se montrer brutal, grossier, agressif, y compris envers ses enfants.
Bonsoir, Cédric Jubilard a-t-il tué son épouse Delphine? Où est-il depuis les premières heures de l'enquête? Le coupable désigné l'homme providentiel, la seule piste possible dans ce dossier de disparition. La mise en examen de Cédric Jubilard pour homicide sur conjoint aurait pu signifier la fin de 6 mois de mystère dans cette affaire, mais il n'en est rien. On a même le sentiment que le dossier vient tout juste de démarrer tant les interrogations restent nombreuses. S'il existe une conjonction d'éléments troublants et accusateurs, il n'y a pas à ce jour de preuves accablantes contre Cédric Jubilard, un homme qui n'a fait aucun aveu. C'est donc bel et bien une partie serrée qui va se jouer dans les mois qui viennent dans les cabinets des juges d'instruction du pôle criminel du tribunal de Toulouse, avec à la clé le sort judiciaire d'un homme, Cédric Jubilard. Un enjeu que nous allons examiner ce soir avec nos invités. Avec eux, nous allons décortiquer cette enquête, revenir sur la personnalité de ce mari qui trouble tant la justice et tenter de savoir quel scénario peut désormais prévaloir.
L'heure du crime, présentée par Jean-Alphonse Richard sur RTL.
Et ce soir dans l'heure du crime, le cas Cédric Jubilard, accusé d'avoir fait disparaître et d'avoir tué son épouse Delphine quelques jours avant la Noël 2020. Il est la dernière personne à l'avoir vue vivante, de quoi faire de lui un témoin capital. Ce 16 décembre 2020, au petit matin, il est exactement 4h09 quand le centre opérationnel de la gendarmerie du Tarn reçoit un appel signalant une disparition. Un dénommé Cédric Jubilard indique que son épouse Delphine n'est plus à leur domicile. Elle s'est évaporée en pleine nuit alors que tout le monde dormait. Il l'a cherchée mais il ne l'a pas trouvée. À 4h50, une patrouille de gendarmerie arrive sur place au numéro 19 de la rue Yves Montand, à Cagnac-les-Mines, une localité de 2600 habitants entre Albi et Carmaux. Ils tombent sur Cédric Jubilard qui les attend en pyjama. Le mari explique que Delphine n'est plus dans la maison. Il ignore pourquoi. Tout reste possible, un départ volontaire, un enlèvement, pourquoi pas, une sortie pour aller promener les chiens au cours de laquelle elle aurait eu un accident. Seules indications à ce stade, la disparue n'a pas pris sa voiture, une Peugeot 207 bleue stationnée devant la maison. Elle est partie avec sa doudoune blanche et a emporté son téléphone portable qui ne répond pas. Delphine Jubilard, nom de jeune fille Delphine Osaguel, a beau être majeure et avoir peut-être décidé de s'absenter du domicile conjugal, les gendarmes prennent l'affaire très au sérieux. Une enquête en flagrance pour disparition inquiétante est aussitôt ouverte par le parquet d'Albi. Cédric Jubilard, 33 ans, peintre en bâtiment et plaquiste, est instantanément dans la ligne de mire des enquêteurs. Il ne peut pas en être autrement. Il est la dernière personne à avoir vu Delphine vivante. À ce titre, son témoignage est capital. Les deux enfants du couple, Louis, 6 ans, et sa petite sœur, Elia, 18 mois, sont trop petits pour être questionnés. Leur grand-mère, Nadine, la mère de Cédric, débarque au domicile pour les prendre en charge. Cédric Jubilard reste, lui, avec les enquêteurs pour les premières constatations. Tandis que leurs collègues cherchent la jeune femme dans le secteur de Cagnac-les-Mines, aucun accident signalé, Delphine demeure introuvable. Le mari appelle en boucle le numéro de son épouse. 180 appels passés jusqu'à 10h du matin, en vain. En milieu de journée, il est conduit à Castres pour des vérifications. Le médecin qui l'examine ne note aucune trace suspecte sur son corps, le torse et les bras en particulier. Pas de coups ni de griffures. Ses ongles ne révèlent rien de particulier. Il est emmené ensuite à Albi pour l'examen de son téléphone et quitte enfin la gendarmerie. Il a interdiction de rentrer chez lui, il ira dormir chez sa mère et son beau-père. Le 24 décembre, la maison de la rue Yves Montand est perquisitionnée. Cédric Jubilard déplore alors d'être montré du doigt comme s'il s'agissait, dit-il, d'une nouvelle affaire d'aval. Bonsoir Patrick Tégéraud.
Bonsoir Jean-Alphonse, bonsoir à tous.
Merci d'être en ligne ce soir dans l'heure du crime. Vous êtes notre correspondant, l'un de nos correspondants RTL à Toulouse. Alors on est là effectivement dans cette nuit qui est capitale, puisque Cédric Jubilard vient de prévenir les gendarmes de la disparition de son épouse. Patrick, je voudrais savoir tout de suite, Jubilard, il a d'entrée un profil, j'ai envie de dire, qui le dessert. Il y a cette maison qui est une espèce de terrifiant Capharnaüm, c'est un fumeur de cannabis, il n'a pas vraiment un emploi fixe, etc., etc. Il y a beaucoup de choses qui stigmatisent, oui, un peu le personnage.
Oui, c'est un gars qui travaille en intérim, qui est plaquiste. Alors, il fait des petits boulots à droite à gauche. En effet, c'est un gros consommateur de cannabis. Et pour ceux qui connaissent un petit peu le couple, ben ils ont l'impression que depuis quelques temps, depuis quelques années, eh bien Cédric vit un petit peu au crochet de Delphine. Delphine qui, elle, a décidé de travailler la nuit pour être plus disponible pour ses enfants la journée, et de gagner un peu plus de sous aussi pour faire vivre ce couple qui bat de l'aile déjà depuis de nombreux mois.
Frédéric Abella, vous êtes en ligne ce soir dans l'heure du crime, bonsoir.
Bonsoir.
Merci beaucoup d'avoir accepté vous aussi l'invitation de l'heure du crime. Vous êtes journaliste à la Dépêche du Midi. Je voudrais savoir avec vous, qui connaissez bien ce dossier, qui avez enquêté longuement sur cette affaire, qu'est-ce qu'elle dit aux gendarmes, cette scène, la scène dans laquelle ils arrivent, cette maison, et surtout quel est leur ressenti tout de suite? Parce qu'on a l'impression qu'ils prennent l'affaire tout de suite très très au sérieux.
Selon les déclarations du procureur, les gendarmes arrivent donc à 4h50, comme vous l'avez signalé, et ils découvrent quelques faits troublants, notamment cette couette dans la machine à laver. Premier indice, un petit peu, bon, voilà, c'est peut-être pas l'heure et le bon moment pour entamer une lessive, mais bon. Voilà, à part ça, ils vont constater aussi, évidemment, enfin, cette voiture qui est garée dans le mauvais sens, en tout cas pas dans un sens habituel à la voiture de Delphine.
Ouais. Mais à la limite, j'ai envie de dire, Frédéric Abella, ils le savent pas encore, ça. Ils vont noter tout ça dans leur cahier, puis finalement, ensuite, tous ces éléments vont revenir. Je voulais juste savoir, selon vous, ils les interpelle tout de suite Cédric Jubilard, les gendarmes, ils sentent qu'il y a un truc qui va pas dans cette affaire?
Non, à première vue comme ça, il y a rien qui saute vraiment aux yeux. Mm-hmm. On n'est pas dans une maison où il y aurait eu une scène de lutte ou une scène de violence.
Voilà,
on ne constate pas ça.
Mm-hmm.
Les choses sont en place. Ils ont affaire à un Cédric Jubilard qui est un mari inquiet de constater la disparition de sa femme. Et il va leur faire les premières descriptions, notamment qu'elle serait partie avec une doudoune blanche. Mm-hmm. Et il en déduit aussi qu'elle est partie promener les chiens. Alors, cet élément... Pour lui, quand il le dit, si vous voulez, c'est une déduction, en fait, dans son raisonnement.
C'est ça.
Il n'affirme pas. Il n'affirme pas clairement, elle est partie promener les chiens.
Mais c'est ça. Il pense qu'elle est sortie avec les chiens, c'est ça. Hein,
c'est ça, voilà. Il le pense.
Bonsoir, maître Jean-Baptiste Allary.
Bonsoir.
Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Vous nous êtes précieux ce soir parce que vous êtes l'avocat de Cédric Jubilard. Évidemment, vous allez nous éclairer cette affaire sous l'angle qui vous appartient et puis sur que pense votre client. Je voudrais juste tout de suite vous poser une question. Cédric Jubilard va dire, après la première perquisition, que finalement, on s'intéresse à lui parce qu'il y a le spectre, si je puis dire, de l'affaire Daval. Ça pèse très lourd d'entrée, cette histoire d'aval sur le dossier?
C'est la toute première analogie qui a été réalisée. C'est-à-dire que tout le monde a fait la comparaison entre ce début d'embryon de dossier avec l'affaire d'aval qui venait de trouver l'issue judiciaire que l'on connaît.
Mmh. Et donc du coup, ça va effectivement peser sur ce dossier et le suivre et le marquer?
Très honnêtement, je pense que ça l'a pesé sur un plan médiatique, sur un plan public, dirais-je, mais pas nécessairement sur un plan judiciaire.
Cédric Jubilard va devoir vivre avec le soupçon. Rien à lui reprocher, même si les gendarmes ne sont pas prêts de le perdre de vue. Delphine, introuvable, ils vont attendre, comme ils l'avaient fait dans le dossier d'aval, pour déclencher une garde à vue décisive. L'ombre l'ombre tenace de l'affaire Daval plane sur la disparition de Delphine Jubilard. Le départ volontaire de la jeune femme, envolée de son domicile, sans ses précieuses lunettes de vue, sans avoir pris son chargeur de téléphone et surtout en laissant derrière elle deux enfants qu'elle adore, cette hypothèse ne tient pas. Tout comme celle de la mauvaise rencontre, les fichiers de délinquants sexuels et de criminels violents sont passés au crible. Un homme est même placé en garde à vue, mais sans résultat. Et si Delphine avait été tout simplement agressée chez elle? La maison est examinée dans ses moindres recoins. Le passage des murs et des sols au Blue Star ne détecte aucune trace de sang. Pas davantage de résultats après l'utilisation d'un géoradar dans le jardin où règne un bric-à-brac de matériaux de construction. L'enquête est désormais ouverte pour arrestation, enlèvement, séquestration arbitraire. Delphine reste introuvable. Une première battue citoyenne encadrée par les gendarmes et à laquelle participe Cédric Jubilard ne donne aucun résultat dans une nature où abondent anciens puits de mines et cavités naturelles. Les gendarmes et les deux juges d'instruction, Audrey Asma et Coraline Chartier, se gardent bien de le dire, mais c'est le mari qui les intéresse. Ils savent que le couple Jubilard, qui fait chambre à part, est en pleine séparation. Une procédure de divorce est même engagée. Cédric certifie que tout se passe bien, 6 mois avant de disparaître. Delphine a rencontré sur Internet un homme marié résidant dans la région, à Montauban. Liaison qui a pris l'allure d'une romance, puisque les amoureux ont décidé de divorcer de leurs conjoints respectifs et refaire leur vie en achetant une vieille ferme dans le coin. Delphine a même prévu de changer de voiture. Cet homme, identifié dans les heures suivant la disparition, est longuement entendu et mis hors de cause. Il se trouvait avec son épouse légitime au moment des faits. Delphine lui a adressé un dernier selfie le 16 décembre au soir, juste avant qu'elle n'éteigne son portable, à 22h55 précise. Les enquêteurs estiment que cette liaison et cette séparation étaient insupportables à Cédric Jubilard. Il risquait de perdre la garde de ses enfants et il n'aurait pas pu, sans le concours financier de Delphine, garder cette maison de Cagnac-les-Mines à laquelle il tient tant. Le mari a beau évoquer un divorce à l'amiable, les enquêteurs recensent des témoignages faisant état de disputes fréquentes. Le procureur de Toulouse décrira l'attitude d'un homme brutal, grossier et agressif. Maître Jean-Baptiste Allary, avocat de Cédric Jubilard, est ce soir l'un de nos invités dans l'heure du crime. On est là un petit peu au cœur de l'affaire, si je puis dire, avec cette séparation à venir entre les époux. Les enquêteurs se fixent vraiment sur cette vie de couple qui paraît très compliquée et très mouvementée.
Bah, ils se fixent sur cette vie de couple et sur cette séparation avec ce prisme-là qui consiste à dire que parce qu'il y a une séparation, elle est forcément très conflictuelle. L'un et l'autre des deux époux avaient pris attache auprès d'un avocat. Ces deux avocats sont rentrés en contact l'un avec l'autre pour envisager un divorce sur consentement mutuel, ce qui est juste à l'opposé d'un divorce conflictuel.
Certes, maître, mais on peut imaginer que derrière cette affiche de divorce à l'amiable, à la maison, ça ne se passe pas bien. Il y a des couples comme ça où ce n'est pas toujours l'idéal.
Il est évident que dans un contexte de séparation, quand on a vécu une quinzaine d'années ensemble, il y a des tensions. On va pas non plus raconter et n'importe quoi, être complètement angélique, mais il faut pas non plus forcément imaginer que c'était l'enfer sur terre à la maison. Mais d'ailleurs, l'enfant, le plus grand enfant du couple a été auditionné à 2 reprises. C'est pas vraiment ce qu'il décrit.
On reviendra d'ailleurs sur le témoignage qui est important du fils aîné du couple. Maître Allary, quand est-ce que Cédric Jubilard a-t-il su que son épouse avait une liaison, je veux dire, même virtuelle, sur une messagerie internet avec un homme?
Alors, c'est assez difficile à dire. Il commence à avoir des soupçons à la fin de l'été. Et effectivement, a envie d'en avoir le cœur net, ce qui est un sentiment relativement normal et légitime. Donc il est vrai qu'il a peut-être des comportements qui sont un peu intrusifs, vous l'avez évoqué, mais finalement c'est simplement un homme qui a envie de savoir.
C'est ça, qui a envie de savoir, mais intrusif au point, c'est ce que disait le procureur en tout cas, hein, qu'il avait fait presque espionner son épouse en essayant de la suivre ou de voir avec qui elle était. Vous confirmez cette attitude, maître ?
Alors, si le procureur a évoqué, moi j'ai du mal à évoquer des éléments supplémentaires, hein, puisque je vous rappelle quand même que l'instruction est couverte par un secret particulier. Mais quelle est la réaction normale de quelqu'un qui se sent, à un moment donné, dans une difficulté particulière qui consiste à dire est-ce que oui ou non mon épouse a rencontré quelqu'un, non pas pour en tirer quelques conséquences que ce soit sur le plan du divorce, mais peut-être simplement pour se prémunir de difficultés et se dire si jamais le divorce ne se passe pas sur un consentement mutuel comme c'est prévu, alors nous basculerons sur une autre forme de procédure. J'aurai la preuve de la faute commise par l'épouse qui permettra d'engager une procédure pour divorce pour faute.
Frédéric Abella, journaliste à la Dépêche du Midi. Là, évidemment, Cédric Jubilard n'a pas encore été interpellé par les gendarmes, on va y venir. Mais il sent déjà qu'il est au centre quand même du dossier. Il se sent suspecté d'une manière ou d'une autre.
Ben, il sent qu'on s'intéresse à lui forcément, puisque bon, ben il est l'époux de Delphine, la dernière personne à l'avoir vue vivante. Il sent que sa maison est placée sous scellé dès le 24 décembre. Donc forcément, il s'attend à être en quelque sorte placé sur le grill. Mais malgré ça, il affiche en tout cas une sérénité. Une sérénité qu'il développe aussi, qu'il affiche aussi sur les réseaux sociaux pleinement. Il assume ce qu'il est.
Il se cache pas.
Non. Il se répand aisément sur sur Internet. Il continue sa vie. Il cherche du travail. Il s'occupe des enfants. Il bénéficie d'aide de son entourage, de sa maman, de son beau-père, et puis de son entourage, de ses copains-copines. Donc pour lui, la vie continue.
Et l'enquête continue, on ne le sait pas trop, Patrick Tégéraud, mais pendant que tous ces événements se déroulent, les recherches continuent. Et dans cette région difficile, en quelques mots, comment ça se passe ces recherches? C'est un peu compliqué sur ce terrain.
Ben oui, c'est très compliqué. Alors tous les lacs des alentours sont sondés, bien entendu. Il y a des battues organisées aussi par des bénévoles, des amis, hein, des copines qui sont parents d'élèves aussi à l'école qui s'organisent pour tous les jeudis faire des recherches, prendre tous les sentiers possibles, longer tous les ruisseaux à la recherche du moindre indice, du moindre objet qui pourrait poser question. Alors les gendarmes sont plutôt favorables à ce genre de recherche, ils les encadrent plus ou moins, et ça n'arrête jamais. Et oui, tout est fait du côté gendarmerie pour déployer tous les moyens possibles et inimaginables. Hein. Des plongeurs, le grimpe pour fouiller des cavités. Alors, vous l'avez dit tout à l'heure, on est dans une ancienne zone minière. Pour vous donner une idée, Cagnac-les-Mines a dû être quasiment à moitié reconstruit pendant au milieu du 20e siècle parce que le village s'est effondré. Ouais. Il avait été construit sur les mines.
Et on comprend bien
partout.
Voilà, on comprend bien, Patrick, que c'est un terrain des plus difficiles. 4 mois après la disparition, le 30 avril, Cédric Jubilard a rendez-vous avec les juges. Il lui est accordé le statut de partie civile, il aura donc accès à cette qualité, au dossier. Les suspicions semblent s'éloigner, mais en réalité, le mari demeure bel et bien au centre de l'enquête. Ce mercredi 16 juin à midi, les gendarmes se présentent sur le chantier d'une maison en construction à la sortie d'Albi. Cédric Jubilard, qui travaille ici comme plaquiste, doit les suivre. Il sourit, façon de signifier qu'il s'attendait à son interpellation, conscient d'être depuis le début le suspect favori. Le mari est conduit dans les locaux de la section de recherche de Toulouse. Garde à vue intense pour un homme bombardé de questions et placé devant les derniers éléments établis par les enquêteurs. Malgré ce coup de pression, Cédric Jubilard ne bronche pas. Il se déclare totalement étranger à la disparition de son épouse. Les enquêteurs déroulent alors une liste de contradictions. Le fait que Cédric Jubilard a affirmé que Delphine était peut-être sortie pour promener les chiens alors qu'il reconnaît désormais les avoir sortis lui-même. Le fait encore qu'il raconte avoir recherché Delphine après s'être levé à 3h45 en constatant qu'elle n'était plus dans le canapé du salon. Le podomètre de son téléphone montre qu'il n'a fait que 40 pas alors qu'il en faut 10 fois plus pour simplement faire le tour de la maison. Enfin, pourquoi le mari s'est-il empressé de laver la couette dans laquelle son épouse dormait? Pourquoi celle-ci a placé son propre vêtement de nuit, un combi baby short dans le panier à linge sale et se serait rhabillée pour sortir en pleine nuit, ce qu'elle détestait. Cédric Jubilard maintient qu'il n'a pas eu d'altercation avec Delphine dans la soirée du 16 décembre. Les gendarmes sont convaincus du contraire. Les enquêteurs s'appuient sur deux témoignages troublants. Le fils du couple, Louis, 6 ans, affirme qu'après avoir regardé l'émission Incroyable Talent avec sa mère et s'être couché, il a entendu une forte dispute entre ses parents, puis les cris se sont apaisés. Dans le même laps de temps, à 23h07, précise heure établie d'après un passage de pub à la télé, deux voisines ont entendu les cris stridents d'une femme, le silence est ensuite retombé. Ces témoins n'ont pas jugé utile d'appeler les gendarmes, elles ne feront part de cet incident que bien plus tard. Reste encore ce message sibyllin envoyé par Cédric quelques heures après la disparition de Delphine, texto adressé à un de ses amis, à qui il dit « J'ai grillé Delphine ». Malgré plus de 40 heures de garde à vue, Cédric Jubilard ne bronche pas. Le vendredi 18 juin, en début d'après-midi, il est toutefois mis en examen pour homicide volontaire sur conjoint et placé en détention. Maître Jean-Baptiste Alary, avocat de Cédric Jubilard, je sais qu'il y a évidemment le secret de l'instruction, je ne vous pousserai pas dans ces retranchements, mais il y a, et ce sont des faits qui ont été exposés par le procureur, beaucoup de témoignages qui sont à charge contre votre client, et y compris le témoignage, je l'ai dit, de son fils aîné, hein, qui dit avoir entendu cette dispute, ce que dément votre client.
Alors, il faut être un peu plus nuancé en réalité. Le fils aîné du couple a été auditionné le jour même, le 16, par les services de gendarmerie. Et à l'occasion de cette audition, il déclarera que la soirée s'est très bien passée, que les parents ne se sont pas disputés et que tout était très calme. Ce n'est que par la suite, plusieurs semaines plus tard, que cet enfant de 6 ou 7 ans sera à nouveau auditionné et évoquera l'existence de disputes. Il faut prendre ce deuxième témoignage avec un peu de réserve parce qu'il est empreint de toute la faculté de chronologie d'un enfant de cet âge-là, dont on sait très bien que la chronologie est très difficile à établir. Le cerveau n'est pas encore reconstitué. Bon, voilà. Donc vous comprenez ce que je veux dire.
Tout à fait.
Mais en première intention, lorsqu'il est auditionné, il ne fait pas état de dispute.
Spontanément, il dit, il parle pas de dispute.
Voilà.
Alors ensuite, il y a ce témoignage des voisines. Que faut-il en penser ? Qu'est-ce que vous en pensez, vous, du côté de la défense ?
C'est très difficile d'en penser quoi que ce soit parce que si une dispute éclate au domicile Jubilard, et qu'un cri strident déchire le silence de la nuit, il est très difficile d'imaginer que le fils qui est présent dans la maison ne l'ait pas entendu.
Oui, en tout cas qu'il n'en fasse pas état si c'est quelque chose d'un cri puissant. Hein, donc il y a effectivement là un peu de dissonance entre les témoignages. Je ne peux pas passer à côté de la question qui fait parler beaucoup, c'est cette machine à laver que met en route votre client dès lors que les gendarmes arrivent, où il met dans la machine à laver la couette dont se servait Delphine pour dormir. Qu'est-ce qui s'est passé ? Qu'est-ce qu'il dit votre client là-dessus ?
Alors, je ne peux pas violer le secret de l'instruction.
Mais approchez-le.
Non, je ne veux même pas approcher cela. Mais il faut simplement s'interroger sur une chose. Les gendarmes primo-intervenants sont suffisamment intrigués par ce fait pour le mentionner dans le procès-verbal. Pour autant, aucune forme d'investigation n'est réalisée. Et vous l'avez rappelé dans le rappel des faits, une fois que M. Jubilard est conduit à la gendarmerie pour être auditionné dans le cadre de la disparition inquiétante, il ne rentrera plus chez lui. Il est conduit devant un médecin légiste à Castres et ensuite on lui demande de ne plus retourner à la maison et la maison est d'ailleurs très rapidement placée sous scellé. Donc s'il y avait quelque chose à rechercher, pourquoi est-ce que ça n'a pas été recherché ?
Bien sûr. Frédéric Abala, en quelques mots, journaliste à la Dépêche du Midi, on a vraiment l'impression qu'avec cette garde à vue, les gendarmes ont abattu une carte maîtresse, il fallait faire craquer le mari, c'est ça, on peut le dire comme ça ?
Bon, on a l'impression que c'est un coup de poker aussi, hein, parce que on est à plus de 6 mois. On a eu, semble-t-il, une stratégie judiciaire qui consistait à accorder à Cédric Jubilard le statut de victime, puisqu'il a été entendu en tant que partie civile le 30 avril, espérant probablement qu'il lâche un petit peu, voilà, qu'il baisse un petit peu sa garde. Et partant de là,
il y a une stratégie. Il y a une stratégie qui a été mise en place.
Oui, on peut l'imaginer parce que Cédric Jubilard est quelqu'un d'assez fuyant. C'est une personnalité complexe. Donc en le mettant en confiance, les gendarmes, les enquêteurs espèrent probablement par ce biais obtenir d'autres informations. Et puis surtout le pousser à la faute.
Cédric Jubilard est écroué à la maison d'arrêt de Seyss, près de Toulouse. Le début d'un marathon judiciaire qui va l'emmener à comparaître plusieurs fois devant les juges d'instruction. À la clé de cette enquête, son renvoi ou non devant une cour d'assises. Pour le procureur de Toulouse, Dominique Alzéari, toutes les portes ont été fermées par les gendarmes de la section de recherche de Toulouse et leurs collègues du groupement du Tarn. Plus de 2500 actes de procédure accomplis, une centaine de militaires déployés pour ratisser une zone de 10 km². Par déduction, la seule piste valable reste celle du mari. En garde à vue, les analystes du comportement du service du renseignement criminel, des experts chargés de dresser le profil psychologique de la personne interrogée, ont apporté leur pierre à l'édifice. Ils ont noté l'absence de réponse sur certains points précis, un comportement qui ferait penser à une sorte de déni, une propension à faire très vite le deuil d'une épouse dont il parle spontanément au passé. Il est encore noté que Cédric Jubilard s'est affiché avec une nouvelle compagne, Séverine, un mois avant son arrestation. Celle-ci, entendue par les enquêteurs, explique que le mari de Delphine lui a toujours dit qu'il n'était pour rien dans cette disparition. La mère de Cédric, Nadine, placée quelques heures en garde à vue avec son conjoint Olivier, ne peut imaginer que son fils soit un meurtrier. Cédric Jubilard, qui continue à nier sa participation dans le crime, pourrait formuler dans les semaines qui viennent une première demande de mise en libération conditionnelle. Sa défense conteste des poursuites qui ne s'appuient, selon elle, sur aucune intention criminelle et sur un meurtre dans lequel le cadavre est absent. Maître Jean-Baptiste Aléry, invité ce soir de l'heure du crime, avocat de Cédric Jubilard, est-ce que vous avez rencontré Cédric Jubilard après sa mise en examen ?
Alors, je suis resté auprès de lui jusqu'à sa présentation devant le juge des libertés et de la détention, et puis par la suite également. Malheureusement, je n'ai pas pu aller le visiter à la maison d'arrêt depuis.
Qu'est-ce qu'il a dit après cette mise en examen et le fait qu'il soit envoyé en détention ?
Alors, il dit rien de particulier, et je pourrais pas non plus là trahir cette fois-ci le secret professionnel, vous allez dire que je suis très mythique.
Non, mais son état d'esprit, simplement.
Alors, il faut être clair, dans mon devoir de conseil, lorsque j'interviens au stade de la garde à vue, il y a un premier entretien, la loi le prévoit, il y a un premier entretien au début de la garde à vue, puis un autre entretien au moment de sa prolongation, dès le départ. Je sais que les faits qui lui sont reprochés dans leur qualification pénale sont graves, donc je le prépare dès le départ à cette issue-là. C'est mon rôle. Je dois préparer quelqu'un je sais qu'il y a potentiellement de la détention à l'issue. Je dois commencer à préparer la personne que j'assiste à cette éventualité-là. Donc, il était prêt à l'entendre.
Il était prêt à l'entendre et effectivement, il a attendu. Je suppose qu'il n'a pas eu de réaction particulière d'après ce que vous nous dites. Patrick Tegero, notre correspondant RTL à Toulouse, et je poserai exactement la même question à votre confrère Frédéric Abella de la Dépêche du Midi. Vous êtes tous les deux des enquêteurs. On peut le dire, et on faut le dire cash, cette enquête, c'est des indices faibles qu'il va falloir étayer maintenant.
Écoutez, pour pas mal d'observateurs de la vie judiciaire toulousaine et connaisseurs des faits divers, on a l'impression de revivre une affaire Viguier. Vous vous souvenez peut-être de la disparition de Suzy Viguier en 2000.
Accusé d'avoir 2000, tué son épouse.
Ce professeur de droit qui était accusé d'avoir tué son épouse, qui a fait 10 mois de détention, qui est arrivé libre en première instance aux assises, qui a été innocenté une première fois, innocenté une deuxième fois, le parquet avait fait appel. Parce que, en effet, tous les soupçons concordent vers lui. Mais où sont les preuves ?
C'est ça. Où sont les preuves ? Frédéric Abella, journaliste à la Dépêche du Midi, vous partagez ce sentiment qu'on est quand même pas un point de rupture, mais on est sur une ligne de crête compliquée.
Oui, c'est une affaire, mais très vite, hein, on a su que ça allait être une affaire complexe, difficile. Finalement, tout ce qui accuse Cédric Jubilard, ce sont des éléments qui ont été recueillis dès le début de l'enquête. On n'a pas l'impression, si vous voulez, qu'il y a eu des nouveaux éléments accablants contre lui. Mmh. On a l'impression de revivre effectivement une affaire Viguier à la campagne, cette fois.
Deux fois acquitté, hein, comme disait Patrick Tégéron.
Deux fois acquitté, tout à fait. Et si vous voulez, les enquêteurs attendent quand même hein, des expertises à venir, des résultats d'analyse qui devraient pas tarder sur des réquisitions. Voilà, donc l'enquête continue, elle se poursuit et elle va apporter vraisemblablement de nouveaux éléments.
Il manque, pour se résumer, Frédéric Abella et Patrick Tégéron. Géraud, il manque un élément massif, accablant, c'est ça?
Et oui, il manque le corps, on n'a pas de scène de crime.
Mais déjà, mais même en retrouvant le corps, parfois on ne trouve pas le coupable, mais il manque la preuve matérielle accablante, c'est ça?
Il manque une trace, il manque un élément probant. La faute originelle, il faut bien le dire, c'est cette histoire de couette qui est dans le lavomatique, dans la machine à laver. On est en pleine période où on fait attention à tout ce qui est violence conjugale, ce genre de choses. Et les gendarmes débarquent à 4h30 du matin dans cette maison. Il y a une machine à laver qui tourne. La maison est sans dessus-dessous, n'est pas très très propre. Et personne n'a la présence d'esprit d'arrêter, d'appuyer sur le bouton et de dire, attendez, hop, là on va voir ce qu'il y a à l'intérieur quand même.
C'est vrai, et ça risque de peser lourd.
Alors, les gendarmes, on leur pose la question lors de la conférence de presse de vendredi après-midi. Ils nous disent, oui, ils étaient là pour aider quelqu'un qui avait besoin de secours pour retrouver sa femme. Un mois plus tard, ils vont quand même analyser la couette. Ils ne trouvent rien, forcément. Elle était parfaitement lavée.
Ils ne trouvent rien. Et je voudrais qu'on retrouve Maître Jean-Baptiste Allary, avocat de Cédric Jubilard, pour vraiment quelques mots. Quelle va être la suite du dossier? Maître, vous allez déposer une demande de mise en liberté?
Alors, plus exactement, on va faire appel de l'ordonnance de placement en détention provisoire dans un premier temps. Ensuite, je vais rentrer dans une phase d'analyse du dossier, notamment sur un plan procédural, évidemment. Et enfin, nous allons débuter une phase de défense active avec éventuellement des demandes d'actes, des demandes de contre-expertise et autres.
L'appel, c'est pour quand? Vraiment, si vous avez une date déjà précise?
Ça ne saurait tarder.
Ça ne saurait tarder. Merci beaucoup, Maître Jean-Baptiste Allary, Patrick Tégéron et Frédéric Abella, d'avoir été ce soir les invités de l'heure du crime avec le cas Cédric Jubilard. 6 mois d'investigation, mais sans doute maintenant, les choses sérieuses vont vraiment commencer. Dossier loin, très loin d'être terminé. Merci à Justine Vigneault, Marie Bossard d'avoir préparé cette émission, Marc Bisset à la réalisation. Un immense merci à vous toutes et tous d'avoir partagé ce soir avec nous cette heure du crime.